Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de cette équipe. Un épisode aujourd'hui avec Laurent Morel de Blue Sport, Daniel Vizentini et Valentin Schnork de la rédaction du Sport Center qui est particulièrement fourni. On va parler des problèmes de Servette, on va parler de la nouvelle formule, on va parler des Vaudois, on va parler de l'équipe de Suisse, de nos coups de cœur helvétiques à l'étranger. Bref, un immense programme qu'on a essayé de compacter en moins d'une mi-temps. Bonne écoute des 3 quarts d'heure de cette équipe. Nous voici avec l'équipe dont Laurent Morel. Laurent Morel du Sport, comment vas-tu?
Salut à tous, salut, ça va bien, merci.
Salut Valentin, comment ça va?
Tout va bien, merci, salut à tous.
Et salut Daniel Vizentini.
Bonjour tout le monde.
Bon Daniel, je te lance d'entrée.
Trop fort alors.
Ouais, bon tu vas rouler un moment. La saison de Servette a pris une tournure un peu inattendue. Si on se replace il y a 3-4 semaines, j'ai qu'une seule question. Qu'est-ce qui se passe au bout du lac?
Eh bien, c'est toute la question, tu vois.
C'est pour ça que je l'ai posé.
Qu'est-ce qui se passe au bout du lac? Il se passe des choses qui ne sont pas très reluisantes, malheureusement. Il y a comme quelque chose qui semble s'être cassé dans la machine servettienne. Et il faut mesurer le degré d'usure, peut-être, parce que c'est bien le mot, je pense, l'usure. Il y a une usure physique, vraisemblablement, et une usure morale, cognitive aussi, dans ce groupe qui a dû changer de rythme depuis l'élimination à Pilsen aussi. Et tout se paye à retardement, tous les efforts qui ont été consentis, dont personne ne s'inquiétait parce que tout roulait. À partir du moment où il y a un petit peu des grains de sable dans la mécanique, ces efforts deviennent plus compliqués à fournir et on voit un Servette qui est pris systématiquement au moindre contre maintenant. Le système de René Weiler est très exigeant physiquement. Pour les joueurs, à la longue, ça se paye aussi peut-être. Et tout ça, ça donne l'idée d'une lassitude. Et ce qui inquiète le plus, c'est qu'on n'arrive pas à voir vraiment la solution. Et ce qui était frappant, c'était lors de la conférence de presse à Bâle, c'était hier, après le match, un Celestini, bien évidemment, tout sourire avec la victoire baloise, mais surtout un René Weiler, les yeux un peu dans le vague. Comme je l'ai rarement vu, ou peut-être pas vu du tout, même pas quand ça se passait mal en début de saison avec Servette, qui donnait l'impression de ne pas avoir la solution ou de ruminer des choses qui l'embêtaient sans savoir comment sortir de cette spirale négative. Voilà où on est un peu Servette aujourd'hui.
Laurent, j'ai l'impression que c'est assez multifactoriel. Il y a la fatigue, la confiance, mais aussi… une sorte de t'as qu'un plan A à Servette finalement, et du moment que je crois que c'est Winterthur qui avait trouvé à peu près comment se jouer du SFC, depuis tout le monde fait un peu pareil, puis ça marche chaque fois.
Ouais, alors ça marche chaque fois. Bon, il y a aussi la réussite, hein, chaque fois contre Servette, on va dire quand même, parce que tout n'est pas non plus à jeter, mais oui, il y a un vrai manque de réaction, il y a une vraie. Il y a plein de facteurs que tu as énoncés, Daniel, donc je vais pas les redonner. Mais il y a ce problème-là, c'est sûr. Et puis, c'est maintenant que tu payes aussi peut-être les petits soucis qu'il y a eu sur le plan administratif aussi, parce que c'est là que tu peux avoir aussi certains autres joueurs qui ne peuvent pas jouer, qui auraient pu te donner un petit coup de pouce, ou en tout cas, dans la tête des joueurs, ça aurait pu aider d'avoir un peu plus de monde, ça aurait pu aider d'avoir encore ton meilleur buteur. Il y a plein de choses qui jouent. Et puis, ça permet aussi de se changer les idées quand tu vas jouer de la Coupe d'Europe. Ça permet aussi de voir autre chose. Et puis, quand tout va mal, tout va mal. Mais c'est pas encore terminé, attention. Faut pas non plus tout jeter. Et puis, on va voir pour le futur. Mais je crois pas qu'il faut non plus tout oublier ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour autant.
Valentin, il y a ce côté tactique. On a l'impression que René Weiler a pas envie ou pas besoin ou pas le temps, ou je sais pas, de mettre en place quelque chose d'autre, parce qu'on a l'impression que c'est toujours la même chose. Et puis, comme le disait le grand penseur, à force de toujours faire la même chose et d'avoir le même résultat, c'est un peu embêtant.
Ouais, non, je pense que Weiler, il a pas envie de s'adapter et c'est pas sa façon de faire de s'adapter. Il a une idée très forte à laquelle il croit fermement et à laquelle il a cru depuis le début de saison. et sur lequel, évidemment, il avait fait quelques petits ajustements qu'on a souvent évoqués quand ça avait commencé à bien tourner à l'automne. Mais globalement, le plan de jeu, l'idée globale, elle n'a jamais vraiment beaucoup évolué à Servette. Il y a peut-être des auteurs de blocs, il y a certains moments de match qu'on différait en fonction de l'adversaire, en fonction de la gestion du score aussi. Mais globalement, et ça, Weiler le dit assez ouvertement, il a un plan A auquel il croit, il cherche pas vraiment à s'adapter en fonction de l'adversaire, en fonction peut-être un petit peu de ses joueurs, mais c'est à peu près tout. Et faire les choses différemment, c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Et c'est peut-être là où se situe, un des problèmes de Servette actuellement, c'est que quand quelque chose déraille, quand quelque chose qui marchait bien déraille un petit peu, on ne sait pas trop quoi faire d'autre. Et ça se voit, et Servette est de plus en plus exposé, parce qu'en plus, il n'arrive pas à récupérer la balle rapidement quand il la perd, et il s'expose en transition, et tous les derniers matchs, c'est à peu près ce qui s'est passé. Hein. Il suffit d'avoir la balle, il suffit de partir de manière un petit peu plus intelligente contre Servette à 3 contre 2, par exemple, comme Zurich l'a fait, comme Bâle l'a fait, comme ça, tu les fais reculer, et donc au moins, tu es sûr qu'ils n'ont pas la balle, et quand ils l'ont, il suffit d'aller très vite en transition pour faire du mal à Servette.
Sur les côtés,
voilà.
Qui doivent apporter un surnombre et puis qui sont pris systématiquement dans leur dos. C'est un peu ça.
Mais donc voilà, donc, allez vite à la récupération, ça suffit aujourd'hui pour marquer des buts. Il y a aussi une défense centrale qui n'est pas irréprochable tout le temps, même s'il est très exposé. Il y a un gardien mâle qui n'est pas tout le temps non plus irréprochable sur les derniers matchs. Et on voit peut-être certaines des limites de l'approche du projet de jeu global que Servette a voulu mettre en place depuis le début de saison.
Daniel, j'ai l'impression que cet état de fait avec René Weiler est un peu récurrent. J'ai l'impression que dans ses précédents clubs, il y avait aussi ces séries. Alors quand ça va bien, ça va très bien, mais quand ça va mal, ça va très mal. Est-ce qu'il n'y a pas un petit moment où il y a une petite remise en question à son niveau aussi? Parce que alors, l'idée est louable, hein, de pressing, le jeu, pas de souci. Mais au bout d'un moment, quand ça ne marche pas, il faut aussi avoir l'intelligence de changer un peu.
Oui, alors je ne vais pas lui faire l'affront de dire que René Weiler n'est pas assez intelligent pour changer de système n'importe quoi. Je crois qu'à la limite, il prend ses responsabilités, René Weiler. Il a un choix A, très fort. Il veut une équipe qui joue rapidement les transitions, qui joue verticalement très vite et qui soit très proactive dans l'intensité. Ce qui lui manque maintenant, c'est l'intensité. Alors, est-ce qu'il doit s'adapter en fonction du déficit d'intensité de ses joueurs ou faire en sorte que cette intensité revienne bon gré mal gré, c'est toute la question. Je ne pense pas qu'il va changer son système de jeu ou ses idées fortes, les lignes fortes qui vont construire la Servette. Mais quand on parle de construire, on parle bien de ça. Et quelque part, peut-être que ce malheur-là est un mal obligatoire et peut-être bénéfique pour le futur de Servette. On pointe du doigt les déficits de Servette. On remarque une chose, Servette s'obstine à faire beaucoup de centres, mais n'a plus de centre avant pour mettre la balle au fond. Bedia est parti, le calcul des dirigeants, on ne peut pas leur jeter la pierre non plus. Il y a 2 millions pour un joueur qui va être gratuit à la fin de la saison, qui arrive sur la table, le joueur part. Il était le meilleur buteur de Servette. On mesure maintenant le déficit et le trou qu'il laisse à la pointe de l'attaque de Servette. Crivelli n'est pas une solution de rechange. Il prend beaucoup trop de cartons, rouges ou jaunes. Il est blessé trop souvent aussi. Et le fait est que ce n'est pas un buteur à la hauteur de Crivelli. Après, on a Nishimura, on a comme buteur Guimeno, et ce ne sont pas des vrais buteurs, des vrais centravants. Donc Servette va peut-être devoir réfléchir pour le futur sur la base des travers qui sont les siens aujourd'hui. De construire quelque chose de différent, d'avoir plus de prestance et d'intensité aussi dans le choix des joueurs. Et c'est peut-être ça qui est en jeu maintenant. L'analyse de ce qui se passe aujourd'hui doit servir aux Servettes de demain, indépendamment de ce qui va se passer. Bon, il faut espérer que Servette va réagir, réussir à accrocher une place européenne, ou peut-être même la deuxième place, si tout d'un coup il se réveille. Mais le but du jeu maintenant pour Servette, c'est de poser le diagnostic et d'avancer pour la saison prochaine. Et ça, Weiler est armé pour ça.
Laurent, maintenant, c'est quoi? C'est tout pour la Coupe? Comment est-ce qu'on remobilise tout ce monde? Parce que la Coupe, c'est un bel objectif. Et franchement, même à Lausanne, je peux dire, on rêve tous d'une finale Servette-Sion. Hein.
Ouais, non, mais il ne faut pas non plus tout jeter. Hein. Servette est encore troisième du championnat. Peut encore clairement, pourquoi pas aller chercher cette deuxième place. Et puis, bah, les joueurs qui sont là sont capables de faire quelque chose. Ils doivent faire quelque chose. Ils doivent remettre peut-être de l'intensité pour suivre René Weiler. Mais pour rebondir aussi sur ce que disait Daniel, c'est ça. Hein. C'est Servette. Le projet de Servette est en train de monter depuis quelques années et il est allé peut-être un petit peu vite aussi. Hein. C'est pas forcément cette saison déjà qu'on s'attendait à voir Servette jouer le titre. Comme le projet de Lugano a pris aussi plusieurs années pour en arriver là où ils en sont actuellement. Et à force, bah voilà, on se rend compte, on apprend à Servette, à Genève, on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure. Et je pense qu'il y a aussi de ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément non plus toujours les moyens de faire autre chose pour René Weiler, pour cette équipe. Et c'est peut-être ce qui manque un petit peu. Ça manque aussi un petit peu des fois de leaders. Quand les leaders qui sont censés être ceux qui peuvent remobiliser tout le monde ne sont pas à leur niveau, que ce soit sur le terrain ou même des fois en dehors, eh ben, c'est compliqué. Là, malheureusement, ben, un Frick qui pourrait peut-être être un détonateur ne joue pas. Alors, il est encore avec l'équipe, bien sûr, mais il joue pas. Et peut-être que là, ça manque un petit peu. Un Konya est bien loin de son niveau et ça manque. Et voilà. Pour répondre à ta question, Robin, non, faut pas tout miser sur la coupe. Clairement, il y a encore des matchs face aux adversaires directs qui se profilent, bien évidemment, avec ce nouveau tour de championnat qu'on se réjouit de devoir expliquer dans tous les sens. Et puis, il y a clairement moyen de faire quelque chose en championnat. Il y aura 4 voire 5 places européennes en championnat cette saison. Il faut de loin pas laisser tomber. Et puis, c'est de toute façon une belle performance en coupe passera par des points et des victoires en championnat. Donc, je pense que la priorité reste même le championnat pour moi.
Oui, mais la vérité, c'est que de fait, Servette va miser beaucoup de choses sur cette demi-finale de coupe. Il reste, bon, déjà, il reste un match à jouer contre Getse la saison prochaine, et ensuite, c'est le match de coupe enfin, disons, la scission entre le tour régulier et le tour final. Donc, de fait, Servette va jouer beaucoup, énormément. Il va se mettre beaucoup de pression sur ce match-là parce qu'il sait aussi qu'en championnat, il commence à avoir perdu pas mal de terrain. Et pour vivre une fin de saison un petit peu emballante à plein de niveaux, ce match-là, cette demi-finale de coupe à la Futures Visée à Winterthur, elle va être très 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 importante et elle va jouer beaucoup. Elle va solliciter beaucoup de pression, si ce n'est dans l'équipe, en tout cas dans l'entourage de Servette, parmi les supporters, parmi les suiveurs, etc. Et il va y avoir une pression sur Servette sur cette demi-finale de coupe. Et là, ça pose quand même beaucoup de questions parce que Servette n'a pas eu très souvent cette saison le besoin de gérer une pression. Il y avait pas beaucoup d'attentes sur des résultats. Tout était un petit peu de l'exploit permanent de Servette. Alors oui, il y a eu des moments où on se disait il fallait contre le Sheriff Tiraspol, il fallait gagner à domicile, bien sûr. Mais il n'y a jamais eu autant d'attentes sur un match, je pense, que ce match-là, encore plus avec le dénouement que suit actuellement Servette.
Mais la
Donc
seule
ce
fois
match.
où Servette est sous pression, c'est quand il doit prendre la tête du championnat, provisoirement ou effectivement, face à IB. Et puis, ces fois-là, Servette se rate, ses 3 défaites.
Ouais.
Hein.
On peut comparer, ouais.
Ah, c'est 1 but et 2 défaites, pardon.
Bon, t'as le
Ouais,
match à eBay quand même, quel contre-exemple.
oui, mais
oui, mais ils étaient
tu
loin de
arrives.
IB à ce moment-là. À ce moment-là, ils pouvaient se rapprocher d'IB. On n'était pas dans le schéma où, si je gagne, je suis en tête du classement, comme à Lucerne ou comme à Winterthur. Et c'est ces matchs-là où Servette est face à sa responsabilité, qu'il doit l'assumer pleinement, que Servette manque. Donc peut-être que ça dit aussi quelque chose.
Valentin, tu penses que ça va être à l'économie contre Guetsé, on fait tourner pour autant qu'on puisse faire tourner et tout, tout, tout pour la coupe.
Non, je ne pense pas qu'il va faire tourner.
Non?
Il y a une semaine d'écart entre les deux. Et puis Weiler, il est quand même de nature à accorder beaucoup de confiance aux joueurs enfin, ses titulaires, quoi. Il n'est pas du genre à miser sur un groupe très large. C'est 13, 14 joueurs sur lesquels il a vraiment une confiance très forte. Et ensuite, c'est plus des joueurs d'appoint et qu'il a dû utiliser à un moment où Servette jouait tous les 3 jours.
Il n'a pas plus que 13 ou 14 joueurs d'ailleurs, hein,
Non,
factuellement.
ouais, on peut aller à 16-17. Mais donc voilà, donc non, je pense quand même que la meilleure préparation pour la coupe, c'est de faire un bon match contre Getse, hein. Ça, c'est de fait, pour retrouver un petit peu de confiance, c'est quand même le meilleur moyen de le faire. Et ensuite, Winterthur, le jouer, c'est clair que tu joueras aussi avec ton équipe type et qui, à mon avis, changera pas beaucoup de ce qu'on a vu hier à Bâle, hein. C'est ça, plus ou moins ça, le 11 type. Et puis voilà, c'est celui sur lequel Weiler se fie le plus.
Laurent, on l'a dit, hein, ce Servette-là n'était pas construit pour faire une saison de 50-55 matchs. Comment est-ce qu'on soigne les esprits et les corps pour un match comme ça?
C'est toute la question, hein, bien sûr que.
Là, c'est pour ça que je la pose.
Non, non, mais voilà, bah, quand t'es comme ça, bah, pour soigner les esprits, pour tout ça, il faut simplement marquer des buts, il faut simplement faire des points, et puis ensuite, tu peux aller jouer un match de coupe avec de l'espoir, avec de l'envie. Mais oui, il faut faire des points contre Getse. Là, maintenant, c'est clair. Il faut vraiment faire ça. Il faut peut-être qu'il y ait un coup de gueule de l'un ou l'autre. Il faut peut-être aussi quand même. Oui, changer quelque chose pour René Weiler, essayer quelque chose. Oui, pourquoi pas. Après, ce n'est pas le genre de la maison et ça, j'y crois pas trop non plus. Ouais, compliqué. Compliqué. Franchement, je n'ai pas la réponse et c'est peut-être pour ça que je ne suis pas entraîneur en Super League non plus. Mais vous l'avez, je suis preneur, les gars.
Daniel, pour terminer sur le sujet Servette, je ne comprends pas bien. J'ai l'impression qu'on avait l'air, comme moi, être un peu perdu au niveau de qui mettre devant, finalement, parce qu'il était parti avec Guillaume Henault un peu au début du printemps, au début du troisième tour. Ensuite, un petit peu de japonais. Ensuite, un petit peu de Crivelli quand il est là. On sent que Bedia, on l'a dit assez, hein, qu'il allait beaucoup manquer. Mais là, j'ai l'impression que Guillaume Henault, qui avait fait le job, finalement, dans ce rôle-là, un peu laissé sur le bas-côté.
Alors bon, faire le job, moi je veux bien, mais en même temps, Guimeno, c'est pas un pur numéro 9 qui prend la profondeur ou qui prend la place à la manière d'un Bedia en puissance ou d'un Crivelli aussi. Bedia, lui, il alliait les deux. Il pouvait prendre la profondeur, il avait une vitesse et il avait aussi cette propension à faire la différence en puissance. Crivelli, lui, il a la puissance, mais il ne peut pas prendre la profondeur et c'est un peu plus lourd. Et puis Guimeno, c'est plus aérien. D'ailleurs, quand il était brillant à Saint-Gall, Guimeno, il était souvent en soutien de l'attaque. Il n'était pas ce centre-avant-là. Il n'a jamais été quelque part ce pur centre-avant qui est à la réception des centres, qui joue les coudes ou qui est capable de contrôler un ballon, de se l'orienter et de faire la différence en puissance face à un adversaire direct. C'est ça le déficit, quelque part, de Servette, avec la perte de Bedia. Ne pas avoir de solution de rechange. On en revient finalement au choix qui reste à René Weiler pour trouver des solutions. Ben, c'est de réussir à trouver d'autres chemins que les centres perpétuels auxquels maintenant tout le monde est habitué quand on joue contre Servette, parce qu'on sait que ça va passer par les côtés, qu'il va y avoir des centres. Mais à l'arrivée des centres, il y a Nishimura, il y a Antunes, il y a Guimeno. C'est des gens plus faciles à prendre en charge qu'un Bedia, évidemment.
Valentin, ça fait partie de comment dire de l'entraînement de l'encadrement de Servette au vu de la saison prochaine. Tu peux pas remplacer un attaquant de pointe comme Bedia par deux trois joueurs d'un autre poste. C'est un problème de management en fait.
Ah, je pense que là où Servette c'est quand même un petit peu loupé, c'est pendant le mercato d'hiver, le fait de pas trouver un remplaçant. Je dis pas que c'est facile, hein, mais de pas trouver un vrai remplaçant à Bedia en termes de profil, et puis même Nishimura est arrivé tard finalement dans le mercato. Il est arrivé je crois début février ou enfin mi-février presque, alors que enfin Servette avait déjà joué 5 ou 6 matchs. Donc oui, évidemment que c'est une erreur, et c'est une erreur que sur laquelle Servette doit maintenant s'atteler à corriger en vue de la saison prochaine. Il va falloir faire un mercato fort. Je pense que l'avis de Weiler va compter d'autant plus dans ce mercato à venir, dans la construction de l'effectif. On sait que Weiler a par exemple pas été très, très d'accord, enfin, il n'était pas forcément un des soutiens les plus importants au recrutement de Rekik et NDI, qui de fait n'ont pas pu jouer finalement pour les raisons qu'on sait. Je ne serais pas étonné que Weiler prenne un peu plus d'importance, un peu plus de place dans ce recrutement-là pour construire une équipe qui le ressemble plus et qui correspond plus à ce qu'il veut, à ce qu'il est comme joueur, comme profil, à la dynamique générale pour s'intégrer dans le modèle de jeu qu'il voit pour Servette.
C'est parti pour la deuxième partie. Laurent, je commence directement avec toi avec une question basique. On a vu que tout est décidé, hein, qui finira dans les six, qui finira dans le tour de relégation. On voit que les positions sont quand même bien figées. Est-ce que le championnat est terminé ?
Non, le championnat n'est pas terminé. Je comprends bien ta question. Alors, il faut quand même être clair, oui, cette nouvelle formule, on doit un petit peu l'apprivoiser aussi. Hein. Il y a pas mal de choses, notamment, on discutait encore là chez Blue, il y a tout le picking, donc c'est toutes les décisions qui doivent être faites sur les matchs qui vont se jouer, sur le calendrier qui va se jouer sur ces dernières journées. Autant te dire que le casse-tête est loin d'être encore résolu. Non, c'est assez joli, parce qu'en plus, il y a des équipes qui vont jouer plus à domicile que d'autres, et je crois que chacun essaye un petit peu d'avoir le meilleur calendrier possible, évidemment, mais de grignoter un peu ça à gauche, à droite. Et je crois qu'eBay, notamment, devrait pouvoir jouer pas mal à domicile. On va voir ça. Mais non, alors, ce qui est sûr, c'est que ça peut... C'est pas encore joué, mais ça peut aller très vite. Oui, eBay peut quasiment être champion d'ici 2 ou 3 semaines. Alors, il y aura cette belle lutte, justement. Lugano-Servette, voire plus bas, qui peut devenir intéressante. Et on a la chance d'avoir 4 ou 5 places européennes cette saison. Et c'est ça qui va être, à mon avis, le plus intéressant à suivre. Parce que c'est sûr qu'en dessous de la barre, oui, c'est pas forcément passionnant. Stiefneck, voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois déjà vers la suite? Tu essaies de faire jouer tes jeunes? Est-ce que Lucerne continue à faire jouer des Yachari ou pas? Est-ce que... Alors, faut sauver ta place et d'ici 1 ou 2 matchs, ben après, ça c'est intéressant de savoir comment tu gères la suite. Est-ce que tu finis en roue libre ou est-ce que tu essayes vraiment des choses déjà en vue de la suite?
Alors, Daniel, je reformule. Ouais. Est-ce qu'à part l'Europe, le championnat est mort?
C'est toutes les limites de ce système hybride. Au bout d'un moment, il faut quand même ouvrir les yeux sur la gabegie que ça implique. Si on regarde le classement maintenant, on voit que Lucerne est 7e et qu'il a 43 points. Imaginons que Lucerne marque ses 3 derniers points. Ça lui fait 46 points. Saint-Gall est à 47 points. Winterthur, 4e européen, est à 49 points. Donc, le 7e avec 46 points, donc à 3 points, du 4e qui est Winterthur ne pourra pas se battre pour être européen. C'est juste dégueulasse. Ça tue une part du championnat pour toutes ces équipes qui vont être 7e, 8e, 9e et qui auront peu de chances d'être menacées par Getse. Et j'en parle même pas de SLO, mais voilà, ce championnat qui coupe le championnat en deux, la saison en deux, à 5 matchs de la fin, pour faire illusion, une illusion artificielle, créer en fait quelque chose de malsain. Et j'y vois pas l'intérêt, avec en plus le bricolage qu'on va devoir voir. Le but du jeu, c'est que toutes les équipes aient 19 matchs à domicile. Ce sera sans doute pas possible. Donc, il y en aura certaines qui seront lésées. Et alors, on nous répond, oui, mais alors, l'année prochaine, on fera l'inverse. Mais l'année prochaine, on s'en fout. Si tu rates l'Europe parce que tu as joué 3 fois à l'extérieur et 2 fois à domicile, ça te fait une belle jambe d'avoir un peu plus de chance au tirage au sort l'année d'après, parce que ce sera favorisé. Enfin, je ne suis pas du tout convaincu par ce système, et je vois d'ailleurs même pas pourquoi on en a changé d'ailleurs. Ça marchait très bien à 10. Voilà.
Je pense que le SLO n'a pas grand-chose à faire, pour rester poli, de jouer un match de plus à la maison la saison prochaine en Super League. Mais ça, c'est un autre problème. Valentin, ça va être assez marrant parce que, comme disait Laurent, ça va être un jeu d'influence en fait. eBay a un petit peu plus de poids que Servette ou Winterthur au hasard, puis c'est eBay qui aura plus de matchs à domicile, non?
Non, mais je pense que ça, pour les équipes qui ont vraiment beaucoup à jouer, à mon avis, on va avoir un truc très équitable. Ça, il n'y aura pas de souci. Par rapport aux 3 premiers tours de la saison, enfin, je m'attends pas à ce que eBay ait tout d'un coup plus de matchs à domicile que les autres équipes, etc., que Servette ou Lugano. Non, je pense que pour ça, ça va pas être trop problématique de trouver l'équité.
Après, il y a quand même le truc, si eBay reçoit Servette, ça te change aussi le truc.
Bah oui, c'est vrai que Servette
va recevoir Servette. Mais pourquoi eBay recevrait Servette?
Non, c'est Servette qui va recevoir eBay.
C'est clair et net depuis le début. Là. Je crois que le seul doute qui existe, c'est sur le ZAD.
Non, mais si Lucerne était passé du bon côté de la barre, comme les calculs avaient été faits avec Winterthur du bon côté de la barre, si Lucerne
avec Lucerne passé... et Lucerne pas Winterthur du bon côté de la barre, ouais, c'est ça.
Ouais, voilà, c'est ça. Le problème aurait été immense parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu faire une sorte de tirage au sort pour savoir si Servette allait recevoir IB ou un autre, ou Lucerne, ou parce qu'il bien fallait choisir une manière de procéder. Donc c'est là où le problème existe de toute façon.
Le problème est potentiellement. À mesure où on n'arrive pas à comprendre nous-mêmes ce qui se passe vraiment. Donc je crois que le problème.
Non, mais je crois que c'est assez clair. Il y a des scénarios qui ont été faits cet hiver. En effet, le scénario qui n'a pas été pris en compte, c'est que Winterthur serait au-dessus. Ça a été pris avec Bâle, ça a été pris avec Lucerne. Ça a marché pour Bâle et Lucerne, ça marchait pas pour Winterthur. Mais on va réussir à s'arranger pour à peu près toutes les équipes de tête, à trouver une forme d'équité. Lausanne risque d'avoir ce problème avec plus de matchs plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur. Mais je crois que c'est le seul club qui est vraiment concerné par ça. Tous les autres clubs vont trouver cette forme d'équité avec, en effet, peut-être certains vont avoir 3 matchs à l'extérieur et d'autres 2 à domicile, et inversement, certains vont avoir 3 matchs à domicile et 2 à l'extérieur. Mais avant, ils ont eu plus de matchs à domicile et après plus à l'extérieur. Donc, on va arriver avec un 19-19 qui sera équitable pour à peu près tout le monde. Il va peut-être simplement falloir s'arranger. Lausanne, peut-être, au lieu d'avoir joué, je ne sais plus, 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur contre une même équipe, contre une certaine équipe, elle va peut-être jouer 3 matchs à l'extérieur et un seul match à domicile. Sur l'ensemble de saison, en effet, c'est un petit peu inéquitable. Mais ça, oui, tu peux peut-être un petit peu le corriger pour la saison prochaine. Et malheureusement, c'est la moins mauvaise solution à partir du moment où on a décidé de passer à 12.
Puis on est passé à 12 aussi, un peu pour Lausanne. Faut pas se le cacher à l'époque.
Oui, aussi.
Parlons de Lausanne, justement, Daniel. Le LS est pile là où il voulait être en fait en début de saison. Ça a été un peu plus chaotique que prévu, mais là, on voit à peu près le LS comme il voulait être. La saison se finit bien, tout va bien. Ludovic Magnin a eu raison.
Bah, alors, je ne sais pas si Ludovic Magnin a eu raison sur toute la ligne. Le fait est qu'actuellement, en fait, Lausanne arrive à exploiter son potentiel. Et oui, il est où il voulait être. Lausanne est néo-promu, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un club qui doit assurer son maintien stable en Super League. Il est en passe de le faire maintenant avec sa très belle série de matchs sans défaite, et c'est très bien pour le championnat de Suisse. On voit que Lausanne, quelque chose de concret se construit avec des joueurs de talent. Quand on a un Pafundi ou un Sanchez dans ses rangs, bah c'est de toute façon déjà intéressant, ça donne de la lumière. Bernédé fait une saison remarquable. Alors on peut toujours s'interroger et se dire, ce Lausanne-là, s'il avait lui aussi un buteur, un vrai buteur, pas quelqu'un qui rate des montagnes à la façon de Callisen, ben peut-être que Lausanne serait encore mieux loti, et peut-être même dans les 6 de tête. Mais ça se construit aussi, et y a aussi des diagnostics à apporter sur cette saison, sur le pourquoi de ce début de saison chaotique, et sur ce qui a permis à Lausanne de sortir la tête de l'eau et de trouver enfin un rythme de croisière. Voilà, le Dan, c'est bien qu'ils en soient là, et c'est tant mieux pour le football de Suisse.
Valentin, on a vu les comptes des clubs qui ont postulé à l'Europe ont été publiés. C'est super intéressant, on pourrait en faire une émission entière là-dessus. Mais on voit quand même qu'à Lausanne, il y a du pognon, parce que au niveau masse salariale, au niveau transfert et tout, c'est un top 6 quasiment dans les chiffres. Donc, le maintien confortable est tellement des choses.
Oui, parce que c'est quand même, disons, on est, je vais revenir sur l'histoire des rapports financiers qui viennent d'être publiés, mais quand tu vois le mercato qui a été fait cet hiver à Lausanne, et la capacité à renforcer cet effectif, elle est claire et nette que c'est une équipe c'est un club du moins qui est destiné à jouer le top 6 l'année prochaine. Et ça, il faut que Lausanne ait cette ambition-là. Parce que quand tu regardes le match contre Zurich, par exemple, on était à la Tuilière l'autre jour, bah, tu ne te dis pas qu'il y a un sacré écart entre les deux équipes. Et peut-être tu te dis même que Lausanne est quand même un peu mieux armée que ce Zurich-là actuellement, avec tous les problèmes que Zurich a eu pendant toute la saison. Boen Riksen qui est parti, Milos Malanovic qui est arrivé, qui a été nommé comme directeur sportif, qui prend beaucoup de place, beaucoup d'importance. Mais au-delà de ça, on voit qu'au niveau financier, on voit qu'il y a des clubs qui dépendent beaucoup de leur mécène. Alors en l'occurrence, à Lausanne, c'est Ineos. À Lugano, bah, c'est le partenariat avec Chicago. À Servette, c'est la fondation 1890 avec Wilsdorf et Rolex derrière. Ces clubs-là dépendent beaucoup de leurs mécènes, et c'est eux qui les permettent de vivre et puis d'être compétitifs aussi au niveau sportif. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Enfin, tous les cas sont un petit peu différents. Moi, ce que je constate, c'est quand même que les 3 exemples que je viens de citer, c'est quand même des exemples qui sont assez stables, où les mécènes qui sont là, ils sont là quand même pour s'impliquer assez longtemps, a priori, de manière, en tout cas, disons, sur le moyen terme, de manière assez sereine.
pour d'autres clubs, mais par contre, c'est des clubs qui sont structurellement assez déficitaires et qui ont besoin de se développer à bien des niveaux. Un IB va peut-être un petit peu mieux, même s'il faut faire attention avec sa masse salariale. Un Sagal va plutôt bien parce qu'il a quand même des recettes billetteries qui sont extrêmement importantes. On voit qu'un Bâle, ça mise surtout sur le mercato et c'est quand tu dépenses, je crois, 50 ou 35 millions sur une saison, enfin sur une année, il faut quand même rappeler que c'est l'exercice 2022-2023 et pas l'exercice en cours qui compte, bah, c'est que Bâle mise beaucoup sur le mercato. Donc voilà, il y a des choses intéressantes, mais qui confirment certains trucs qu'on voit si on suit la Super League de manière assez attentive.
Laurent, un dernier mot sur le LS, le maintien, on peut dire que c'est fait, le maintien précoce. Ça va permettre justement de bien construire pour la saison prochaine, de corriger ce qui a peut-être été mal fait cette année. Ludovic Magnan en parlait lui-même de partir avec un 11 100% étranger, c'est peut-être pas un très bon signal. Ce maintien précoce, ça va permettre de tout bien calmer, de tout bien mettre en place pour viser le top 6 l'année prochaine.
Ouais, ça va permettre d'aller chercher un 9, ouais, ça va être pas mal. Non, de toute façon, bah, ça va être la grosse question pour cet été, je pense. Si tu arrives à avoir un vrai buteur, tu peux viser plus haut. Lausanne construit, et comme on le disait avant pour ce qu'a fait Lugano, comme on le disait avant pour ce qu'est en train de faire Servette, ça prend du temps. Tu peux pas, débarquer en une saison et aller viser l'Europe, viser le titre. Et oui, Lausanne est sur la bonne voie, et puis tu vas pouvoir construire. Alors peut-être justement avec cette fin de championnat, est-ce que tu essayes déjà d'autres choses, Ludovic Magnin, peut-être à cette chance-là d'ici un ou deux matchs, quand le maintien sera officiel, de pouvoir essayer d'autres compositions, essayer d'autres joueurs, pourquoi pas aussi tenter de faire jouer un ou deux jeunes différemment. Oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant, c'est peut-être un des seuls avantages de cette formule à ce niveau-là, qui fait que la saison de Lausanne, comme d'autres clubs, sera finie très rapidement, on va dire.
Cette formule un peu bizarre, Daniel, va donner des tas de derbies vaudois dans ce temps de relégation, avec pas beaucoup d'enjeux, à part le prestige, si on peut parler de prestige à ce niveau-là. Juste un mot sur Lugano, pour continuer ce tour du Pays de Vaud. Bah, Lugano était très inquiet avec ce qui se passait en début de saison, mais finalement, le maintien devrait être acquis, et eux aussi, ils risquent de changer 25 joueurs cet été, et puis c'est parti comme ça.
Mais tu parles de Yverdon, là.
Ouais, Yverdon, ouais.
Ouais, tu as dit Lugano, donc.
Pardon.
Ouais, tu vois. Que Lugano, oui, il maintient, je pense que c'est acquis, ouais.
Ça devrait aller.
devrait aller. Yverdon, oui, voilà. Bah, le système mis en place par Yverdon, on le connaît. C'est l'idée un peu de trading, de vente, de mise en valeur, d'achat, de mise en valeur et de revente des joueurs. Les limites de l'exercice, je ne sais pas s'il faut en tirer des conclusions. Et ça dépend comment c'est fait aussi, mais ce qu'on peut voir, c'est que les équipes qui font du trading sont en queue de classement, quelque part. Donc, est-ce que ça veut dire que le système est obsolète à lui seul? Je dis pas ça, mais je dis simplement qu'il faut le faire de manière intelligente si on veut se lancer là-dedans. Et est-ce que en Suisse, on peut mettre en valeur et gagner de l'argent à Yverdon en mettant en valeur des joueurs, en les revendant plus cher? Je ne parle même pas de SLO qui veut faire ça aussi. Bâle, on a vu les limites de l'exercice. Bâle qui se retrouve dans le tour de relégation, bah, c'est quand même un camouflet pour cette équipe. Et voilà, donc je ne sais pas. Il y a quelque chose à construire. Moi, j'ai plus de sympathie quelque part envers une construction à la Lausanne qui met des choses en place sur la durée avec un groupe qui doit exister. C'est ce qu'a fait Servette aussi à l'époque, avec un noyau fort de joueurs qui est là depuis longtemps et qui a porté Servette longtemps. Peut-être certains arrivent à bout de souffle maintenant. Ce sera aussi l'occasion de se poser toutes les bonnes questions, y compris celles qui dérangent, avec des joueurs phares de l'équipe depuis 5 ans. Mais voilà, sinon, Yverdon, oui, il va s'en sortir sans problème. Hein, et tant mieux pour Yverdon, mais... je ne sais pas si le système voulu et décidé sera pérenne sur la durée pour Yverdon.
Valentin, un mot sur Yverdon. Moi, ce qui m'a un peu surpris quand même, c'est le profil des joueurs qui sont arrivés, parce que c'est quand même des vrais bons joueurs qu'on connaît, d'assez bon niveau, cet hiver notamment, qui sont arrivés cet hiver. Comment est-ce que tu attires ça à Yverdon, finalement?
Je pense qu'il y a en effet l'idée de se mettre en valeur. Ça, c'est... tu viens dans, dans une équipe, dans un championnat où on donne à peu près l'assurance de jouer. On sait que c'est un petit peu suivi. On sait qu'il y a, sans doute des salaires qui ne doivent pas être trop mal par rapport à la dimension Caille-Verdon dans le football suisse. C'est tout un tas de choses qui correspondent bien. Et puis après, il doit y avoir des jeux d'agents qui doivent jouer aussi là-dedans. Mais au moins, enfin, disons, quand tu joues à Yverdon, tu peux te mettre en valeur un petit peu quand même d'une manière ou d'une autre. Kevin Carlos, il va avoir un marché cet été. Mayous aussi, il va avoir un marché, par exemple. Même Lisiero, je pense qu'il peut espérer trouver un autre club. Enfin, c'est des joueurs comme ça, ils peuvent espérer trouver d'autres des portes de sortie. Et puis, tu sais que tu vas pas non plus toucher le tout haut du panier, mais au moins tu vas pouvoir exister sur le mercato. Et donc voilà, ça c'est quand même ce qui compte le plus, on a bien compris pour Yverdon. Yverdon va en plus réussir à se sauver normalement sans trop de soucis. Il faudra quand même gagner ces deux matchs à domicile. Je crois que c'est contre Lucerne et contre Lausanne. Ils ont un déplacement à sa Lausanne. Mais Yverdon aura quand même globalement réussi sa saison. Ça n'aura pas été toujours parfait. À l'extérieur, ça aura été souvent assez compliqué. Mais Yverdon aura quand même réussi sa saison.
Laurent, un tout dernier mot pour le SLO. Il est là où on l'attendait. Hein. On a vu un léger mieux avec le nouveau coach. Il n'y a peut-être pas eu les renforts qui étaient attendus cet hiver. C'est normal. L'anomalie, c'était de voir le SLO qui était en Super League.
Ouais. Bah, de toute façon, on le voit avec le public à la Pontaise en général. C'est vrai que c'est malheureux hein, pour ce slow qu'on aime bien quand même, mais qui va retrouver sa place en Challenge League. Et je pense que c'est d'une certaine manière assez logique. Après, ça avait apporté un vent de fraîcheur aussi. Et c'est aussi bien de voir que ces clubs-là sont capables de venir chatouiller des fois les meilleurs. Et puis, ça permet malgré tout de à certains joueurs de se mettre en valeur quand même, parce que c'est aussi l'avantage de la Suisse. C'est quand même un championnat qui est suivi et ça permet quand même de se mettre en valeur, même dans ces clubs-là, qui sont des clubs qui n'ont pas forcément leur place pérenne en Super League avec des projets qui tiennent toujours la route, comme autant que d'autres.
Ça m'aura permis de voir Garbi jouer 7-8 fois. Je pense que les prochaines années, il va falloir payer un peu plus cher pour le voir en vrai.
À la question, c'est est-ce que ce sera encore en Suisse ou pas? Ça reste... C'est une question.
Ça m'étonne. Bon, passons à la dernière partie de ce podcast. Déjà, un mot, Daniel Granit-Xhaka, roi du monde. Ce qu'a fait Leverkusen cette année, les stats du capitaine de l'équipe de Suisse, c'est une folie. On connaît le joueur, mais peut-être que même nous, on est surpris par comme il se royaume, quoi, là-bas.
Ouais, en fait, le joueur, il est parti d'Arsenal. Arsenal demandait 15 millions. C'est ce que va payer le Bayer Leverkusen à la demande express de Xabi Alonso, qui voulait absolument Granit-Xhaka. Et il y a plein de personnes qui ont commencé à glousser en se disant « Ouais, mais pourquoi on met autant d'argent pour Granit-Xhaka ? Il a 30 ans, bientôt 31 ans. C'est un mauvais investissement. » Ben, tous ceux-là, maintenant, ferment leur bouche, je crois. Granit-Xhaka écrase les stats de la Bundesliga de tout son talent. Il est le meilleur passeur, celui qui touche le plus de ballons, celui qui fait le plus de passes dans la zone 3, celui qui récupère le plus de ballons dans la zone 3. Il a joué au total, tenez-vous bien, sur l'ensemble du 100% des minutes disputées par le Bayer Leverkusen, il a joué 89% des minutes disponibles. En fait, il a raté que deux matchs de poule d'Europa League, alors que le sort de Leverkusen était déjà connu, ils étaient qualifiés, et puis il a été remplaçant deux autres fois. À part ça, il a été 29 fois titulaire sur 29 en Bundesliga, il n'a pris que 4 cartons en championnat et un en Europa League. Les statistiques de Granit-Xhaka sont ahurissantes et on voit ce qui se passe quand quelqu'un, un entraîneur, donne les clés du camion à Granit-Xhaka avec la volonté de faire quelque chose autour de lui. Il n'y a pas que Granit-Xhaka, c'est bien sûr le succès de Xabi Alonso. Il y a d'autres joueurs exceptionnels dans cette équipe. Mais enfin, il y a quand même quelqu'un qui porte un peu plus les idées de l'entraîneur que d'autres, et c'est bien lui. Donc oui, Granit Xhaka, sans doute le meilleur joueur suisse de l'histoire, est brillant. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire.
Bon, Laurent, le problème qu'on va peut-être avoir aussi, c'est que Granit, Daniel l'a dit, il a joué énormément. Est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'à aller mi-juillet au hasard ?
Ouais, bah, je crois qu'il a déjà montré qu'il était capable, normalement, de tenir des longues saisons comme ça. Puis, ouais, le fait d'être en confiance et de gagner, et en plus maintenant, peut-être qu'il pourra se reposer un petit peu, étant donné que je ne suis pas sûr qu'il va devoir jouer encore toutes les minutes en championnat d'ici la fin de la saison, mais non, il sera là. Et, ouais, si ça se passe bien en interne au sein de l'équipe de Suisse, oui, ce sera le Granit Xhaka qui est capable de transposer son jeu d'Arsenal à Leverkusen comme ça. C'est juste fort. Enfin voilà, moi, tant que fan d'Arsenal, ça fait très longtemps que je sais ce dont il est capable sur le long d'une saison. Et puis bah oui, ça fait un peu mal. Je crois que c'était aussi sa femme qui voulait pas mal partir en Allemagne. Je crois que personne va s'en plaindre par là-bas. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Et puis, je pense que oui, il sera capable au mois de juin d'être là comme il le faut.
Valentin, on voit quand Granit Xhaka est installé dans son fauteuil, j'ai envie de dire, qu'il arrive à donner sa pleine mesure, bah, il faut aussi que l'équipe soit un peu construite là autour. Et je pense que Murat Yakin est prêt, enfin prêt à le mettre dans ses meilleures dispositions.
Ouais, je crois qu'il faut aussi, il faut surtout qu'il y ait un alignement des idées de chacun avec celles de son entraîneur et qu'il croit beaucoup à ce que son entraîneur raconte. Hein, l'exemple Arteta, l'exemple de Xabi Alonso, l'exemple Petkovic à l'époque, Lucien Favre. Voilà, si chacun est aligné, ses idées sont alignées sur celles de son entraîneur, il va donner le 100% de ce qu'il peut donner, la totalité de ce qu'il a apporté aussi. Tout ce qu'il a apporté de lui-même pour l'équipe, pas seulement reproduire les idées de son entraîneur, mais aussi leur donner encore plus de complexité, encore plus de contenu, de fond. Et pour ça, chacun est très fort parce qu'il peut aller au bout des choses. Le problème avec Yakin, c'est qu'il y a eu un désaccord sur toute la ligne dès le début et que de petit à petit, et c'est sans doute ce qui amène Yakin aussi à changer ces derniers temps, c'est que pour que ça se passe à peu près correctement, il faut s'aligner sur les idées de chacun pour Yakin. Maintenant, c'est à Yakin de s'aligner sur les idées de chacun pour que ça corresponde à peu près correctement et puis que ça permette à l'équipe de s'épanouir et à ce que lui, Granit Xhaka, prenne toute l'importance qu'il a dans une équipe et pour transmettre cette idée de jeu, l'idée de jeu qu'il veut transmettre. Et alors, c'est aussi pour ça que je pense que je te laisse juste après. Xhaka deviendra un entraîneur intéressant parce qu'il a des idées de jeu qui commencent à être très abouties et il a besoin de les reproduire sur un terrain.
Ouais, je voulais juste ajouter qu'en fait, on parle souvent des idées de chacun pour l'équipe de Suisse. En fait, les idées, elles sont nées conjointement avec les autres leaders de l'équipe de Suisse. Quand chacun parle, il parle en tant que capitaine de l'équipe de Suisse. Quand il dit que les entraînements ne sont pas à la hauteur, je vous assure qu'il en a parlé avec Akanji, avec Sommer, avec Shaqiri, avec d'autres, et qui sont tous arrivés à la même conclusion. En fait, il est le porte-parole de l'équipe. Et quand on parle des idées de chacun, de plus de jeux, de plus de proaction de l'équipe de Suisse, de plus de possession et d'un certain style, eh bien, lui, il défend l'idée de ce style qui est l'idée générale d'un groupe et en tout cas de son noyau dur. Donc, ce n'est pas seulement chacun qui impose son oukase en disant « je veux qu'on joue comme ça et vous vous adaptez à moi », ça va bien évidemment au-delà de ça. Je tenais juste à préciser ça.
Bon, je voudrais poser une petite question en préambule de ce podcast. C'est à part Xhaka, parce que ce sera un peu trop facile, et au vu du dernier week-end de compète aussi, hein, où pas mal de Suisses ont brillé, quel est votre joueur suisse de la saison qui joue à l'étranger? Laurent, toi, tu voterais pour qui? Parce qu'il y a bien du niveau cette année, et ça donne quand même un peu envie pour cet euro allemand tout bientôt.
Ouais, bah, pour être un tout petit peu original, je vais peut-être miser sur Vincent Sierrault parce que c'est un parcours que j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il ait tenté sa chance sûrement un petit peu tôt à l'étranger, que ça n'avait pas fonctionné, qu'il soit revenu, qu'il soit reparti, qu'il ait reconstruit ça et qu'il choisisse un club qui soit vraiment le club qu'il lui fallait. On s'est assez vite rendu compte de ça. Et puis de le voir briller à 28 ans comme ça, ça fait plaisir. Et je pense vraiment qu'il y a moyen de pourquoi pas même être un joker intéressant pour cette équipe de Suisse cet été pendant 7 euros.
Ah, avec la blessure de Librilso, je pense que ouais, il y a peut-être une place à gagner. Valentin,
ouais, puis il est même plutôt pote avec Mourat, non? Donc ça devrait peut-être aller.
Valentin, tu votes qui, toi?
Oh, les trois de Bologne, je pense que ce qu'ils ont fait, donc Ebischer, Freuler et Endoy, même s'ils ne jouent pas tout le temps tous, même si Freuler est quand même celui qui est le plus important dans tout ça, même si Endoy a été blessé à un moment, je crois que les trois, ce qu'ils ont fait, alors c'est pas les plus importants à Bologne, dans l'équipe de Bologne, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs importants, notamment, enfin, je prends Calfiori, si je prends Ferguson, si on prend Zirkzee devant, enfin là, c'est des joueurs qui sont extraordinaires, mais ils ont les trois beaucoup pris une place importante dans la dynamique super intéressante qui a été insufflée par Thiago Motta. Je ne sais pas s'ils vont aller chercher la Ligue des Champions, mais ils sont quand même bien partis pour être en tout cas dans le top 5, et sachant que la cinquième place en Italie sera très 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 probablement qualificative pour la Ligue des Champions, il y a quand même moyen d'y croire, et sachant que c'est quand même... Endoy, c'est sa première saison, il est avec Johannes, mais sa première saison en Serie A. Ebischer, ça fait un an et demi qu'il est là-bas. Freuler, alors il a toute l'expérience qu'il a, mais les trois, ils comptent dans ce championnat-là, et c'est quand même pas négligeable.
Daniel ?
Oui. Alors moi, comme je suis vieux, je vais parler d'un vieux, et je vais mettre Yann Sommer, parce qu'après tout ce qu'il a traversé au Bayern, toutes les critiques qu'il a dû essuyer et les sarcasmes qui ont fusé autour de lui, il se relance à l'Inter. Alors ok, l'Inter, c'est très très fort cette saison, il y a une défense de fer, indomptable, n'empêche qu'il n'a encaissé que 17 buts cette saison, et qu'il a fait des blanchissages à Thierry Larigot. Il a fait taire beaucoup de critiques. Il va être champion d'Italie. Et Yann Sommer, on a toujours tous en tête le 28 juin 2021 avec cet arrêt magique sur un penalty de Mbappé qui a soulevé tout le peuple suisse. Il faut espérer que ce Sommer-là, qui est toujours bien présent maintenant à l'Inter, qui va être champion, sera le dernier rempart intraitable de l'équipe de Suisse à l'Euro. Ce sera peut-être même sa dernière compétition internationale à ce niveau-là. Et voilà, je big up pour Yann.
Bon, moi, j'hésitais entre Yvon Mvogo pour son parcours et surtout sa mentalité, mais c'est compliqué à Lorient cette saison. Et puis Fabian Scher, parce que Fabian Scher, j'ai eu la chance de le voir deux fois en vrai, et il me fait tellement rire. Le gars est capable de te faire des contrôles dans les 5 mètres, des relances, après il oublie de défendre. Ce gars-là est un mystère total pour moi depuis l'époque où je suis l'équipe de Suisse. Moi, je me disais, mais ce gars doit jouer 6, parce qu'il ne sait pas défendre. Et puis, il est à Newcastle, il a eu de la peine à se fixer dans un club, et puis là, c'est le roi du monde à Newcastle, puis il est adoré, puis il met ses buts. Et je sais pas, j'adore ce type, et il est vraiment un peu fou. Et ça me fait penser que quand même, je me demande s'il ne faudrait pas qu'on fasse une petite défense à 4, mais à 4 centraux à l'Euro, parce qu'entre Akanji, qui est quand même un joueur défenseur central, mais plutôt pour la domination, et Fabian Scher qui défend quand même pas très beaucoup, je me demande comment on va pouvoir s'en sortir pour récupérer 2-3 ballons dans le dos. Bref, les amis, merci, c'était très intéressant, et on se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt, bye bye.